Parmi les amis de mon père, il y avait un homme d'affaires vietnamien qui avait épousé une Française. Suite à des problèmes politiques facilement imaginables dans le Vietnam de 1970, cet homme dut repartir de toute urgence vers son pays, emmenant sa femme mais n'osant s'encombrer de leur fils de 6 ans, qui fut donc confié à mes parents pour une durée indéterminée. Hugo était un garçon impassible et réservé. Il me fit bonne impression jusqu'au moment où il passa à l'ennemi, mon frère. Les deux garçonnets devinrent inséparables. Je décidai de ne pas nommer Hugo pour le châtier. En français, je disais toujours très peu de mots afin de ménager mes effets. Cela devenait intenable. Je ressentais le besoin de clamer des choses aussi cruciales que « Hugo et André sont des cacavères ». Hélas, je n'étais pas censée être capable de prononcer des assertions aussi sophistiquées. Je rongeais mon frein en pensant que les garçons ne perdaient rien pour attendre. Parfois, je me demandais pourquoi je ne montrais pas à mes parents l'étendue de ma parole. Pourquoi me priver d'un tel pouvoir? Fidèle sans le savoir à l'étymologie du mot enfant, je sentais confusément que j'aurais perdu, en parlant, certains égards qui sont dus aux mages et aux débiles mentaux. Au sud du Japon, avril est d'une douceur voluptueuse. Les parents nous emmenèrent à la mer. Je connaissais déjà très bien l'océan par la grâce de la baie d'Osaka qui, à l'époque, regorgeait d'immondices, autant nager dans les égouts. Nous allâmes donc de l'autre côté du pays, à Tottori, où je découvris la mer du Japon dont la beauté me subjugua. Les Nippons qualifient cette mer de mâle par opposition à l'océan, qu'ils jugent femelle. Cette distinction me laissa perplexe. Je ne l'ai pas comprise davantage aujourd'hui. La plage de Tottori était grande comme le désert. Je traversai ce Sahara et parvins à la lisière de l'eau. Elle avait aussi peur que moi. À la manière des enfants timides, elle avançait et reculait sans cesse. Je l'imitais. Tous les miens y plongèrent. Ma mère m'appela. Je n'osais pas les suivre, malgré la bouée qui me ceinturait. Je regardais la mer avec terreur et désir. Maman vint prendre ma main et m'entraîna. Soudain, j'échappai à la pesanteur terrestre. Le fluide s'empara de moi et me jucha à sa surface. Je poussai un hurlement de plaisir et d'extase. Majestueuse comme Saturne avec ma bouée pour anneau, je restai dans l'eau des heures durant. Il fallut m'en retirer de force. Mère ! Ce fut le septième mot. Très vite, j'appris à me passer de la bouée. Il suffisait de gigoter les jambes et les bras et on obtenait quelque chose qui ressemblait à la nage d'un chiot. Comme c'était fatigant, je m'arrangeais pour rester là où j'avais pied. Un jour, il y eut un prodige. J'entrai dans la mer, je me mis à marcher droit devant moi en direction de la Corée et constatai que le fond ne descendait plus. Il était surélevé pour moi. Le Christ marchait sur les eaux. Moi, je faisais monter le sol marin. À chacun ses miracles. Exalté, je résolus de marcher à tête sèche jusqu'au continent. Je fonçai vers l'inconnu, foulant le doux tapis de ce fond si complaisant. Je marchais, m'éloignant du Japon à pas de titan, pensant qu'il était fabuleux d'avoir de tels pouvoirs. Je marchais, et soudain je tombais. Le banc de sable qui m'avait porté jusque-là s'était affaissé. Je perdis pied, l'eau m'avala. J'essayais de gigoter les bras et les jambes pour revenir à la surface, mais chaque fois que ma tête émergeait, une nouvelle vague me la replongeait sous les flots, tel un tortionnaire cherchant à me soutirer des aveux. Je compris que j'étais en train de me noyer. Quand mes yeux sortaient de la mer, je voyais la plage qui me paraissait si loin, mes parents qui siestaient et des gens qui m'observaient sans bouger. Fidèle au vieux principe nippon de ne jamais sauver la vie de quiconque, car ce serait le contraindre à une gratitude trop grande pour lui. Ce spectacle de mon public assistant à ma mort était encore plus effrayant que mon trépas. Je criais « Tasukete !» en vain. Je me dis alors qu'il n'était plus temps de faire des pudeurs avec la langue française et je traduisis le cri précédent en hurlant « Au secours !» C'était peut-être cela, l'aveu que l'eau voulait obtenir de moi, que je parlais la langue de mes parents. Hélas, ces derniers ne m'entendirent pas. Les spectateurs nippons respectèrent leurs règles de non-intervention jusqu'à ne pas prévenir les auteurs de mes jours, et je les regardais, me regardais mourir avec attention. Bientôt, je n'eus plus la force de bouger mes membres et je me laissais couler. Mon corps glissa en dessous des flots. Je savais que ces moments étaient les derniers de ma vie et je ne voulais pas les manquer. Je tentais d'ouvrir les yeux et ce que je vis m'émerveilla. La lumière du soleil n'avait jamais été aussi belle qu'à travers les profondeurs de la mer. Le mouvement des vagues propageait des ondes étincelantes. J'en oubliais d'avoir peur de la mort. Il me sembla rester là des heures. Des bras m'arrachèrent et me remontèrent à l'air. Je respirai un grand coup et regardai qui m'avait sauvé. C'était ma mère qui pleurait. Elle me ramena sur la plage en me serrant très fort contre son ventre. Elle m'emballa dans une serviette et frotta mon dos et ma poitrine vigoureusement. Je vomis beaucoup d'eau. Puis elle me berça en me racontant, à travers ses larmes, « C'est Hugo qui t'a sauvé la vie. Il jouait avec André et Juliette quand, par hasard, il a vu ta tête au moment où elle disparaissait sous la mer. Il est venu me prévenir en me montrant où tu étais. Sans lui, tu serais morte. » Je regardai le petit Eurasien et dis solennellement « Merci Hugo, tu es gentil. » Silence médusé. « Elle parle ! Elle parle comme une impératrice !» jubila mon père, qui passa en un instant des frissons rétrospectifs au rire. « Je parle depuis longtemps, » fis-je en haussant les épaules. L'eau avait réussi son plan, j'avais avoué. Allongée sur le sable auprès de ma sœur, je me demandais si j'étais heureuse de ne pas être morte. Je regardais Hugo comme une équation mathématique. Sans lui, pas de moi, pas de moi. Est-ce que ça m'aurait plu ? Je n'aurais pas été là pour savoir si ça me plaît, me dis-je avec logique. Ouais, j'étais heureuse de ne pas être morte, pour savoir que ça me plaisait. À côté de moi, la jolie Juliette. Au-dessus de moi, les nuages magnifiques. Devant moi, l'admirable mer. Derrière moi, la plage infinie. Le monde était beau. Vivre en valait la peine. De retour à Shukugawa, je décidai d'apprendre à nager. Non loin de la maison, dans la montagne, il y avait un petit lac vert que je baptisais « Petit lac vert ». C'était le paradis liquide. Il était tiède et ravissant, perdu dans une foison d'azalées. Chaque matin, Nishio-san prit l'habitude de m'emmener au petit lac vert. Seul, je découvris l'art de nager comme un poisson. Toujours la tête sous l'eau, les yeux ouverts sur les mystères engloutis dont la noyade m'avait appris l'existence. Quand ma tête émergeait, je voyais les montagnes boisées s'élever autour de moi. J'étais le centre géométrique d'un cercle de splendeur qui ne cessait de s'élargir. Avoir frôlé la mort n'ébranlait pas ma conviction informulée d'être une divinité. Pourquoi les dieux seraient-ils immortels ? En quoi l'immortalité rendrait-elle divin ? La pivoine est-elle moins sublime du fait qu'elle va se faner ? Je demandai à Nishio-san qui était Jésus. Elle me dit qu'elle ne savait pas très bien. « Je sais que c'est un dieu, » hasarda-t-elle. « Il avait de longs cheveux. »« Tu crois en lui ?»« Non. »« Tu crois en moi ?»« Oui. » »« Moi aussi, j'ai de longs cheveux. »« Oui, et puis toi, je te connais. » Nishio-san était quelqu'un de bien. Elle avait de bons arguments. Mon frère, ma sœur et Hugo allaient à l'école américaine près du Mont Rocco. André avait, parmi ses manuels scolaires, un livre qui s'appelait « My Friend Jesus ». Je ne pouvais pas encore lire, mais il y avait des images. Vers la fin, on voyait le héros sur une croix avec beaucoup de gens qui le regardaient. Ce dessin me fascinait. Je demandai à Hugo pourquoi Jésus était accroché à une croix. « C'est pour le tuer, » répondit-il. « Ça tue les hommes d'être sur une croix ?»« Oui. »« c'est parce qu'il est cloué sur le bois. Les clous, ça le tue. Cette explication me parut recevable. L'image n'en était que plus formidable. Donc, Jésus était en train de mourir devant une foule et personne ne venait le sauver. Ça me rappelait quelque chose. Moi aussi, je m'étais trouvée dans cette situation. Être en train de crever en regardant les gens me regarder. Il suffit que quelqu'un vînt retirer les clous du crucifié pour le sauver. Il suffit que quelqu'un vînt me sortir de l'eau ou simplement que quelqu'un prévînt mes parents. Dans mon cas, comme dans celui de Jésus, les spectateurs avaient préféré ne pas intervenir. Sans doute, les habitants du pays du crucifié avaient-ils les mêmes principes que les Japonais. Sauver la vie d'un être revenait à le réduire en esclavage pour cause de reconnaissance exagérée. Mieux valait le laisser mourir que le priver de sa liberté. Je ne songeais pas à contester cette théorie. Je savais seulement qu'il était terrible de se sentir mourir devant un public passif. Et j'éprouvais une connivence profonde avec Jésus, car j'étais sûre de comprendre la révolte qui l'animait à ce moment-là. Je voulais en savoir plus sur cette histoire. Comme la vérité semblait enfermée dans le feuilletage rectangulaire des livres, je décidai d'apprendre à lire. J'annonçais cette résolution, on me rit au nez. Puisqu'on ne me prenait pas au sérieux, je m'y mettrais seule. Je ne voyais pas où était le problème. J'avais appris par moi-même à faire des choses autrement remarquables. Parler, marcher, nager, régner et jouer à la toupie. Il me parut rationnel de commencer par un Tintin, parce qu'il y avait des images. J'en choisis un au hasard, je m'assis par terre et je tournais les pages. Il me serait impossible d'expliquer ce qui se passa, mais au moment où la vache ressortit de l'usine par un robinet qui construisait des saucisses, je m'aperçus que je savais lire. Je me gardais bien de révéler à autrui ce prodige puisqu'on avait trouvé risible mon désir de lire. Avril était le mois des cerisiers du Japon en fleurs. Le quartier fêtait cela le soir, au saké. Nishio-san m'en donna un verre. J'en hurlais de plaisir.